L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 17h25. Nous sommes au cœur de l'effervescence parisienne, à l'aube de la fête d'Halloween. Comme un symbole, c'est ce 28 octobre 1900 que l'un des auteurs les plus mystiques et controversés va se convertir. Dans quelques instants, Oscar Wilde va devenir catholique. Rien ne le prédestinait à faire ce choix. Et nombre de questions entourent la fin de sa vie, aussi riche que les intrigues de ses romans. Comme une tragédie grecque, menée en trois actes, retour aujourd'hui sur les dernières années d'un destin aussi époustouflant que drapé de noir, au travers de dépression, déchéance et ruine. 17h25, l'heure H de mon histoire. Tout commence à 17h, ce 28 octobre de la première année du XXe siècle. Au beau milieu de la capitale française, nous nous trouvons dans une église aussi modeste que classique. Un curé est là, vêtu d'une soutane des plus sobres, et le petit autel qui se tient là se sublime par sa simplicité. Consacré à Sainte-Marie-Madeleine, cette église du faubourg Saint-Antoine, colorée de quelques vitraux, pour certains brisés, est à l'image de l'homme qui s'avance au milieu des bancs. Il est en costume et, comme tout dandy qui se respecte, tient à haute forme dans sa main droite. Il transpire abondamment. Fiévreux, sur le seuil du grand voyage vers la mort, il se tient au banc conduisant vers la nef pour avancer. Deux de ses amis sont derrière lui. Une moustache finement taillée pour l'un, une canne soutenant une démarche hésitante pour l'autre. Ses anges gardiens le suivent donc de près. Ils sont aux aguets, prêts à se précipiter sur lui en cas de chute. Mais, comme par magie empreinte de spiritualité, chaque banc passé donne au malade qui s'avance une assurance nouvelle et spirituelle. Au premier, il a déjà le pas plus sûr. Au deuxième, il se redresse. Au troisième, il sourit. En cette fin d'après-midi, peu de temps avant le grand saut vers l'inconnu, Oscar Wilde deviendra un serviteur de Dieu. Il sera catholique, enfin. Toute son existence, un long chemin tortueux, l'a guidé vers ce jour. C'est là l'un des paradoxes les plus insolubles de la vie de l'écrivain. Homosexuel, persécuté, rejeté par les serviteurs de Dieu, emprisonné. Rien ne semblait indiquer que son exil parisien, qui le pousse dans les bras de la faucheuse, soit aussi celui de la conversion au seuil de sa fin de vie. Et pourtant il est là, devant l'autel, attendant les saintes paroles de ce curé victime d'une quinte de toux. Quelques années plus tôt, Oscar Wilde était devenu Sébastien Melmotte, faisant ainsi une sorte de croix sur celui qu'il avait été jusqu'alors. Une tentative de rédemption ? Une volonté de gommer un passé qu'il n'aurait pas assumé ? Seul lui a la réponse. Ses amis qui sont là s'interrogent sur la trajectoire que prend la fin de vie de cet homme qu'ils aiment. Rien ne présageait d'un tel épilogue à venir. Toute sa vie, il avait été rejeté par cette religion dont il épousait les principes ce soir. Il y a plusieurs années de cela, en leur présence, il s'était exclamé « Je ne suis pas catholique, simplement un papiste violent ». Voilà un bon résumé de cette vie marquée par les contradictions et les retournements de situation. En attendant, une cérémonie doit se tenir. Chassant les doutes et la mélancolie, les deux témoins du baptême, sans mot dire, se prennent la main. En communion, ils acceptent le choix d'Oscar et écoutent les paroles christiques. Bientôt, tout sera terminé. À quelques pas de cette scène émouvante, Oscar Wilde est concentré sur le curé en face de lui. L'homme de Dieu, petit, chétif, semble manquer de se briser les os à chaque respiration et à chaque quinte de toux. Une Bible dans la main gauche, la main droite posée sur l'épaule du dandy désargenté, la cérémonie qu'il mène prend une ampleur que Wilde semble apprécier. Il rentre presque en totale symbiose avec cet environnement qui lui rappelle certains de ses écrits. Il pleure de joie, de soulagement. Oh, il se sait mourant. Il se sait appelé prochainement par Dieu et fierté parmi les fiertés. Il sera bientôt un sujet du Christ. Ses larmes évacuent les années de frustration et de rejet. Les gestes du curé le font entrer dans une immortalité que seul le christianisme, pour lui, est capable de donner. Au sommet du clocher, les gargouilles s'éveillent. Elles s'envolent, tournent autour du faubourg Saint-Antoine, montent la garde comme pour empêcher les cavaliers de l'Apocalypse de venir déranger le processus en cours. Non loin de là, Notre-Dame semble tout entière aspirée vers cette petite église. Quasimodo et Esmeralda paraissent presque le regarder, lui, l'auteur qui s'est cru impie toute sa vie durant. Frollo, le méchant du roman de Victor Hugo, poursuit la belle gitane qui, depuis le sommet des Tourneurs, a les yeux fixés sur Wilde. Oscar devient l'un des sujets du Christ. Enfin, le dernier amen résonne dans le cœur fissuré de l'église et les portes du paradis s'ouvrent sous les pieds de l'auteur. Il lève enfin les yeux, plante son regard soulagé et profond dans les yeux de ses deux amis. Ils pleurent, eux aussi. La tristesse les assaille. On ne perçoit jamais sa démesure avant d'en être la victime. L'esprit obscurci par la fièvre et les douleurs qui s'installent chaque instant un peu plus, Wilde découvre avec surprise que les bancs de l'édifice sont pleins. Une multitude de personnes est en train de l'applaudir. Oh, il les connaît, tous. Au premier rang, Dorian Gray, mystique. L'air grave, le regarde avec insistance. Un léger sourire en coin, il semble apprécier ce moment. À ses côtés, Sibyl Vane, Lady Augusta Bracknell, Lord Henry Wilton, Basil Hallward. Tous sont présents, tous le regardent avec émotion et approuvent son geste. Comme une ultime consécration, Oscar Wilde observe tous les personnages de sa création sortir de son esprit et se matérialiser au contact du Christ. Il a fait le bon choix. Maintenant, il le sait. Au début du XXe siècle, les adultes convertis entraient dans la religion grâce à une coupe de champagne. Celle de Wilde, sale, à peine remplie, est presque une relique des temps anciens. Oscar remercie le curé, qui la double du regard, puis, puissant dans la chute, conquérant dans l'agonie, il se retourne vers ses deux amis qui, eux, bien entendu, ne voient pas les personnages de fiction qui se trouvent derrière eux. Levant sa coupe, dans un dernier geste d'esthétisme et de grandeur, l'auteur s'exclame « Je meurs comme j'ai vécu, largement au-dessus de mes moyens. » Il ne croyait pas si bien dire. Avant même de s'attarder sur sa chute vertigineuse, nous devons nous pencher sur la genèse d'Oscar Wilde. Notre histoire commence le 29 mai 1884. Nous sommes à Londres, en fin de matinée. Le quartier de Paddington est en effervescence avec en son centre l'église Saint James. Il fait beau, les oiseaux chantent. Autour de l'édifice religieux, des parterres de fleurs pleines de vie donnent aux alentours un air de fête. La terre fertile d'Angleterre a été particulièrement généreuse cette année. Les nombreux espaces verts de cette ville au cœur de la révolution industrielle résistent à la pression des hommes. Sur les pavés résonnent les sabots des chevaux tirant des calèches en tout genre. Ici, un pur sang anglais brun comme les noisettes est fièrement à la tête d'une petite berline. Là, un fringant ardennais en provenance directe de Belgique est l'attraction d'une voiture décapotable. Les cochers, jouant du fouet et arguant les imprudents qui traversent, jettent leurs mégots sur la route et se saluent. Le poumon londonien vit, respire, s'amuse et crie. Et l'église Saint-James, comme c'est le cas lors de chaque printemps, est au cœur de toutes les attentions. Deux jeunes gens se marient aujourd'hui, et non des moindres. L'un d'eux s'appelle Oscar Wilde et son épouse Constance Lloyd. Journaliste, militante féministe, poétesse, écrivaine et rédactrice de contes pour enfants. Elle aime Oscar fabuleusement. Ils se sont rencontrés l'année précédente à la fin du mois de novembre 1883. La jeune femme est la fille d'un homme très proche du cercle royal. Famille puissante donc, qui attire l'œil d'un jeune poète en pleine ascension. Un thé dominical le 26 novembre décante les choses. Les deux jeunes gens ne vont plus se quitter. Oscar a 29 ans, Constance 25. Descendant d'une magnifique calèche tirée par quatre chevaux noirs comme le jet, les deux jeunes gens s'avancent vers le perron de l'église, tapissé de fleurs blanches pour l'occasion. Le début d'un mariage célébré en grande pompe. Elle tombe plutôt bien, cette union pour Oscar. Des rumeurs commencent à bruisser sur sa sexualité. Et vous imaginez bien que l'homosexualité est à l'époque un crime absolu, puni de peines terribles. Fraîchement diplômé de la prestigieuse université d'Oxford, le natif de Dublin connaît ses premiers succès à la fin de la décennie 1870. Pour cet apprenti artiste des plus ambitieux, la capitale londonienne est une rampe de lancement qui lui semble tout indiquée. Oscar s'installe dans le quartier de Chelsea grâce à sa part d'héritage reçue à la mort de son père. Il commence tout doucement à devenir ce dandy dont on remarque la présence. Fréquentant théâtre et salon mondain, il se destine à une carrière de critique d'art. Mais c'est la publication d'un premier recueil de poèmes composés de nombreux inédits qui lui donne une première notoriété publique. Nous sommes alors en 1881. Les premiers 750 exemplaires sont écoulés en un temps record. Une deuxième édition est donc lancée et le jeune homme va profiter de son cercle d'influence pour gagner encore et toujours en popularité. En attendant, 3 ans plus tard, le mariage d'Oscar Wilde est imminent. Sa future femme, superbe, s'avance dans le cœur. Saint James est une église très réputée dans la capitale. C'est le centre d'une des congrégations les plus en vue des Anglicans. La grande Sarah Bernard est là, au 4e rang. De nombreuses autres personnalités aussi. Des officiers de l'armée, dans leur uniforme rouge clinquant, font claquer leurs bottes au sol, au passage des stars de cette journée. L'édifice du XVIIe siècle est magnifique, tout comme l'est l'ascension des amoureux en passe de concrétiser leur amour. Au sol, un parfait carrelage noir et blanc est la caisse de résonance rêvée pour les chaussures et les cannes lors de chaque contact. Des bancs, espacés et confortables, en ébène, prennent la lumière de l'autel et semblent refléter la grâce divine sur Oscar et Constance. Lui est vêtu d'un 3 pièces gris et porte une canne de dandy à son côté droit. Nulle boiterie, mais un sens du style déjà à l'avant-garde, à la pointe. Elle, tout de blanc vêtue, un châle le long des épaules, le regarde tendrement. La cérémonie se déroule à merveille. Les vitraux et les piliers de la nef offrent aux spectateurs un sentiment de plénitude et annoncent pour le couple un bonheur sans tache, sans entrave. Le chœur chantant des cantiques ajoute à l'atmosphère une impression d'irréel. Les jeunes gens se disent oui, les invités exultent. La famille de la mariée, comme un seul homme, les félicite et verse des larmes de joie. Oscar, déjà empli d'envie, de grandeur, lève la main vers la foule, sa chevalière au majeur gauche. À la sortie de Saint James, la foule qui s'est pressée bénit de cris et de clameurs amicales les mariés. La providence les frappe du regard. L'ascension fulgurante ne peut être qu'incroyable pour eux deux. Et c'est la fin des rumeurs entourant Oscar Wilde pour un temps. Avant sa rencontre avec sa femme, il est parti avec ses amis en tournée en Amérique du Nord. Son style chatoyant en inspire certains qui iront jusqu'à créer des personnages de pièces de théâtre lui ressemblant. Il décide de l'emmener pour une tournée aux États-Unis afin qu'il puisse présenter des conférences sur l'esthétisme anglais. Le succès est absolument incroyable. Sa position en Angleterre en ressort grandie à l'époque, de manière considérable. Sa pensée, elle, s'affirme en retour. Ses lectures de Maurice à Baudelaire vont inspirer ses publications à venir. Lorsque la tournée se termine, la petite troupe retourne en Angleterre. Le moral d'Oscar n'est pas au zénith, alors même que sa situation le permettrait. Son retour en terre britannique ne l'enchante guère. Elle décide alors, pour quelque temps, de partir en France. Paris l'attend. La capitale des Lumières va être pour lui une véritable révélation. Nous sommes alors en février 1883, 9 mois, avant sa rencontre avec sa future femme. Paris. Oscar Wilde va y rester jusqu'à la mi-mai de la même année. La fin de l'hiver, particulièrement rude, débouche sur un printemps tantôt brumeux, tantôt plein de soleil. Cette ambivalence manifeste sera pour lui un incroyable trésor d'inspiration. Paris a déjà marqué l'adolescence du jeune homme. Les revenus qu'il a touchés aux États-Unis lui permettent de vivre confortablement sa deuxième expérience parisienne. Il y rencontre assez vite dans un restaurant du cœur de la ville à la mode un jeune poète du nom de Robert Sherard. Ce nom ne vous dit certainement rien, mais il est à l'époque l'une des personnalités littéraires qui compte. Grâce à lui, un soir d'orage à la sortie de l'hiver, Oscar est reçu chez l'un de ses illustres contemporains, Victor Hugo. Son style d'écriture change, il devient moins extravagant. D'un point de vue vestimentaire et capillaire aussi, ce sont les grands changements. Ses costumes, dignes des tenues militaires des Murat et autres grands extravertis de l'histoire, sont remisés au placard. Attention, toujours aussi soigné l'écrivain. Disons simplement qu'il est plus sobre, moins voyant. Les fourrures blanches d'Hermine sont remplacées par des noires. Les costumes violets par des gris ou des sombres. Ses cheveux, noirs et longs, qui lui tombaient aux épaules, sont aussi les victimes de ce changement. Tout ce qui lui valait des caricatures sarcastiques dans la presse de Londres disparaît. Le voilà un nouvel homme, doté d'une coupe à la Néron très classique, mais toujours aussi soigné. Avant son départ, il croise d'autres grands noms des domaines artistiques de son temps. Le jeune Marcel Proust, seulement âgé de 12 ans, croise sa route à ce moment-là, tout comme Maurice Rollina ou les peintres Pissarro ou Degas. Sur le plan personnel, c'est aussi le temps des premières rumeurs. On voit Oscar traîner dans des salons à caractère homosexuel. Les mondains commencent à chuchoter, de Paris à Londres, qu'il aurait des amants parmi les hommes prestigieux de la haute société française. L'époque est particulièrement hostile à ce que l'on considère comme des comportements sexuels déviants. Les sanctions sont très excluantes, notamment pour les jeunes gens en quête d'ambition. Wilde n'a pas le choix. Il va devoir se trouver une femme, se marier et jouer au parfait hétérosexuel. 2 enfants vont naître de son mariage avec Constance. Il endosse le manteau du parfait père de famille. Cependant, il ne peut pas aller éternellement contre sa vraie nature. En souffrance, ses écrits font ressentir ce mal-être présent et constant. Et sa popularité explose. Voilà l'ambivalence de ce destin hors norme. Riche, glorieux, mais à la souffrance omniprésente. Les écrits de Wilde, eux, vont entrer dans la légende.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons leur hache d'un destin aussi extraordinaire que le talent de celui qui l'a vécu, l'écrivain Oscar Wilde. Le voilà marié à une jeune femme et père de 2 enfants. Il compte parmi les personnalités les plus influentes de Londres et ses premières publications ont eu un succès retentissant. Son style d'écriture n'est pas encore affirmé. Ses histoires, qui vont bientôt tenir en haleine des générations de lecteurs, ne sont qu'à l'état de bourgeonnement. Si extérieurement tout va bien, dans le meilleur des mondes pour l'écrivain, intérieurement il est en proie à des souffrances bien réelles. La cause ? Oscar Wilde est homosexuel. Et face aux dictats de la société londonienne de l'époque, il est contraint de réprimer ses sentiments. Nous sommes au début du mois d'avril 1891. À bord d'une berline tirée par deux chevaux appartenant à son beau-père, Oscar Wilde longe Buckingham Palace. Ôtant son chapeau comme le veut la coutume, il regarde distraitement la garde royale qui opère sa relève habituelle. Sa montre à gousset en main, il remarque qu'il est en retard. 16 heures. Il devrait déjà être arrivé là où on l'attend. La Tour de Londres, c'est là sa destination. Cette tour qui fut la prison d'Anne Boleyn et de tant d'autres personnages célèbres, ou non d'ailleurs. À proximité de cet endroit iconique du monde occidental habite un marquis, le marquis Queensberry. Ils sont de la même génération. À la lecture des poèmes d'Oscar, l'aristocrate a sollicité une rencontre. Une audience permettant d'affirmer sa culture, avait-il dit dans son courrier cacheté. Intrigué, l'écrivain a accepté. Il est au sommet de sa gloire. Depuis près d'un an est sorti le portrait de Dorian Gray. Un véritable chef-d'œuvre, pour lui du moins. La première version de juin 1890, sortie simultanément en Angleterre et aux États-Unis, lui a valu un flot d'admirateurs, d'acerbes critiques aussi. Cependant, tous, y compris ses détracteurs, s'accordent sur un point. L'écrivain a un talent certain, naturel, pour l'écriture. Il est intelligent, cela ne fait aucun doute. Il a du style, un côté artistique absolument inné, personne ne le nie. Mais ce roman porte gravement atteinte à une morale publique puritaine qui ne supporte pas ceux qui sortent des clous. Le personnage de Dorian Gray est un magnifique jeune homme qui se laisse tenter par la satisfaction d'être peint par un ami. Devant le résultat splendide de cette œuvre singulière, Dorian pactise avec le diable. Si c'était moi qui toujours devais rester jeune, et si cette peinture pouvait vieillir, pour cela, je donnerais tout. Il n'est rien dans le monde que je ne donnerais, mon âme même. Dorian en devient jaloux maladif, côtoie un lord qui l'incite au jeunisme, à la vanité. Le rêve qu'il a formulé se réalise. Il conserve sa beauté. Son apparence ne change pas. A contrario, le tableau, lui, vieillit progressivement. Mais Dorian Gray devient fou. Il provoque la mort de sa future épouse et commet des crimes en tout genre. Il va même jusqu'à tuer le peintre du tableau de peur que quelqu'un ne perce son incroyable secret. À chaque mauvaise action, la toile se transforme, laissant apparaître un être abject, diabolique, immonde. Vivant dans la tourmente, aspiré par la folie, Dorian Gray finit par poignarder le tableau. Retournement de situation alors. Il meurt sous les traits d'un personnage cauchemardesque. La toile, elle, retrouve son aspect d'origine. Ce livre a l'effet d'une bombe, puisqu'il touche à la morale publique de la bonne société londonienne. Travestissant la nature avec un monstre pour héros et travestissant la morale, puisque consciemment, Wilde établit des circonstances atténuantes à la vie dissolue de ce héros. Loin de calmer les choses, l'auteur justifie ses positions arguant de l'indépendance de l'art vis-à-vis de la morale. C'est donc un écrivain au sommet de la gloire, au cœur des débats dans la presse, qui se présente au domicile du marquis Queensberry. De noir vêtu, Oscar Wilde porte comme souvent un petit chapeau melon. Ses cheveux courts lui donne un visage rond. Son manteau en hermine est le signe d'un début de printemps assez froid. Une fine pluie tombe sur son costume en tuiles à carreaux. Sa cravate, elle, semble une victime que la brune affectionne particulièrement. Perché sur les marches d'un perron en marbre blanc, Wilde tire la corde de la cloche de l'entrée. Aussitôt, un majordome fin, sec, les cheveux grisonnants, tout à fait le type taillé pour ce genre de métier, ouvre la porte. Oscar est attendu. Installé dans une pièce, certainement agencée comme un boudoir, il est invité à s'asseoir sur un des fauteuils aux motifs fleuris et à prendre un thé. Les yeux fixés sur la bibliothèque, il s'étonne d'y trouver des Molières et des Victor Hugo en édition originale en français. Voilà quelqu'un qui a du goût et qui sait correctement dépenser son argent, pense-t-il. Il n'a pas vu le jeune homme qui s'est discrètement introduit dans la pièce. Il est grand et mince. Enfin, musclé serait certainement un mot plus juste. Oh, il a du style, du charme. On ne peut pas vraiment dire qu'il est beau. Du moins, pas pour les canons de l'époque. Les boucles dans ses cheveux sont grossières. Ses mains sont petites. Son visage, lui, n'est pas non plus d'une perfection absolue, mais un véritable magnétisme se dégage de son attitude. Il n'a pas dit un mot. Aussi, lorsque Wilde se retourne, il est surpris par l'intrus. Instinctivement. Comme seul un mystère de l'univers en est capable, au premier regard, l'un et l'autre tombent amoureux. Éperdument. Tout de suite. De la même manière que les planètes peuvent s'aligner. Cet amour-là, pur, égal, beau, compris d'eux seuls, les envahit sans aucune mesure ni avertissement. Ensemble, ils veulent tout de suite illuminer l'univers. Cette relation tout à fait réprimandable aux yeux de l'Église et de la morale, condamnable même, n'empêche pas les deux hommes de se montrer de manière ostensible. Ils mènent une vie débridée dans les quartiers chics de Londres. Le père du jeune marquis, l'un des hommes les plus influents du royaume, ne tarde pas à être mis au courant. C'est le drame, comme vous pouvez l'imaginer. Plusieurs fois, Oscar Wilde reçoit des courriers en provenance de cet homme qui le provoque. Devant le manque de réaction des uns et des autres, le vieillissant marquis n'a plus le choix. Il colle un procès au train de Wilde, ce qui va provoquer un véritable scandale. Mais vous allez me dire, à juste titre, que Wilde est marié à une femme à cette époque. Oui. Eh bien, leurs liens se sont distendus depuis plusieurs années déjà. Constance Lloyd, qui mène de son côté sa carrière d'une main de maître, est en proie au doute depuis quelque temps, avant que le scandale n'éclate. Face à l'éloignement de son mari, elle développe une jalousie très forte, mais ne se doute pas de son orientation sexuelle, du moins au début. Dans les premiers temps durant lesquels Oscar fréquente le marquis, Constance est en voyage en Italie. Elle devient l'une des premières photographes entre 1891 et 1892. À son retour, elle découvre qu'Oscar vit une vie quasi maritale avec son amant. Wilde est impoli envers elle en public. Et comme vous pouvez l'imaginer, les relations entre le trio deviennent difficiles. Constance écrit son désarroi à ses amis. « Je n'arrive pas à déterminer si c'est ma faute ou celle d'Oscar, s'il est si froid avec moi et si gentil avec les autres. Ma chère, que dois-je faire ?» Les rapports entre les amants sont houleux. Le jeune marquis quitte Oxford avant la fin de son cursus et pousse Wilde à dépenser sans compter. L'auteur essaie de s'en éloigner sans succès, puisqu'il part même en vacances avec eux. Au mois de novembre 1893, une caricature des amants est publiée dans la presse. La femme d'Oscar est désespérée. Elle écrit « Je suis très désemparée et inquiète, et personne ne peut m'aider. Je ne peux que prier pour l'aide de Dieu, ce que je fais maintenant la plupart de mon temps. J'espère que mes prières seront exaucées, mais quand ou comment, je l'ignore. » C'est dans ce climat explosif que le 3 avril 1895 s'ouvre une procédure judiciaire après un premier procès en diffamation intenté par Wilde contre le père de son amant. Malheureusement, Oscar a perdu et maintenant, le vieil aristocrate se retourne contre lui. Le parfum du scandale éclate. Le début de la chute d'Oscar Wilde aussi.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous traversons l'heure H d'un écrivain extraordinaire, au destin des plus houleux, Oscar Wilde. À la suite d'un début de carrière tout bonnement fulgurant, sa chute se profile à vitesse grand V. Marié et père de deux enfants, Oscar entretient une relation presque maritale avec un jeune aristocrate. Il se met à dos le père de ce dernier qui, à coup de procès écorne totalement l'image du poète. Sur des charbons ardents, la conclusion de toutes ces manœuvres est sur le point de tomber. Pour Oscar Wilde, la chute semble inévitable. Nous sommes le 6 avril 1895. Il est 9h du matin. L'écrivain Oscar Wilde vient d'être arrêté dans la chambre d'hôtel numéro 118 du Cadogan Hotel, un palace en plein cœur de Londres. De nombreux badauds sont témoins de cette incroyable arrestation. Le procès intenté contre lui aura eu raison de ce qu'il a toujours considéré comme étant le plus précieux, sa liberté. Deux autres procès se suivent. Et le 25 mai de la même année, Oscar est condamné avec pour toile de fond son homosexualité. 2 ans de prison accompagnés de travaux forcés. Sa femme Constance et ses fils sont contraints à l'exil. Humiliation suprême, ils sont jetés en dehors d'un hôtel en Suisse. La cause, l'ignominie qu'évoque le nom de Wilde. Rabaissés et humiliés, leur mère prend alors une décision radicale. Ses enfants s'appelleront désormais Holland, en référence à son frère. Ce changement est également lié aux nombreux courriers qu'elle reçoit. Ceux-ci sont loin d'être bienveillants et proviennent surtout des très nombreux créanciers de son mari, qui a accumulé les dettes. Elle écrit à sa médium en parlant de l'incarcération de Wilde. « Vous m'aviez dit qu'après ce terrible choc, ma vie allait devenir plus facile. » Mais connaîtrais-je le bonheur ou est-ce la mort qui s'annonce pour moi? Et j'en ai connu si peu. Ma vie a été coupée en morceaux comme ma main l'est par ses lignes. Dès que ce procès est terminé, je dois obtenir ma séparation de corps ou si possible, mon divorce, afin d'obtenir la tutelle des garçons. Quelle tragédie, lui qui est si doué. La totalité du mobilier de la maison de Londres est saisie et vendue aux enchères à la suite du procès. Constance, avant son exil, rend visite à son mari, le pressant de partir à l'étranger avant son deuxième procès. Une de ses amies écrit. Ils restèrent seuls pendant 2 heures. Je l'aimais beaucoup et j'étais peiné de la voir partir en larmes. J'ai appris par la suite qu'elle était venue avec un message urgent de son avocat le suppliant de fuir sans faute avant le prochain procès, qui serait sans doute sa ruine. Oscar est contraint par sa mère de rester et d'affronter les conséquences de ses actes. Il accepte donc la sentence et part en prison. L'amant d'Oscar, lui, est poussé à la retraite forcée durant plus de 3 ans, d'abord en France, puis en Italie. Wilde est broyé complètement par la prison et les travaux forcés. Au bout d'une année, il est autorisé par le directeur, privilège unique, à écrire. Un petit matériel lui est fourni. Une seule œuvre est publiée durant cette période. Un recueil de correspondances, notamment à son amant, De Profundis. Une seule autre sera publiée entre sa sortie et son décès, toujours sur les thèmes sordides de l'incarcération. Comment briser un homme dont le seul crime aura été d'être différent des normes de son époque, d'être en avance sur son temps? Les années en prison sont des plus difficiles, des plus angoissantes aussi. Pour cette âme artistique est persuadée au plus profond d'être innocente de tout crime. 2 ans plus tard, en 1897, enfin, Oscar est libre. Il s'exclame 4 ou 5 fois sur le quai de la gare « Que le monde est beau !» Ses amis le pressent de se taire. Il vaut mieux faire bonne figure. La prison semble avoir donné à Oscar des élans religieux. C'est là que son côté spirituel, lié au catholicisme, a pris son essor. L'écrivain souhaite se faire baptiser et plus encore, se retirer dans un cloître. Les jésuites qui l'a contacté refusent. Arguant son comportement déviant, il lui demande d'attendre encore au moins 2 ans. Son moral en est profondément touché. Voyant que sa vie en Angleterre va devenir des plus difficiles, il part lui-même en exil dans l'un des pays qu'il a le plus aimé, la France. Il s'installe près de Dieppe, en Normandie, et prend le grand air. C'est là qu'il change de nom. Il se fait désormais appeler Sébastien Melmoth, en référence à un roman de Mathurin, l'un des fondateurs du mouvement gothique en littérature. Le prénom, lui, est en lien avec l'un des personnages qui le fascine le plus, Saint Sébastien, un martyr de la religion catholique. Oscar Sébastien vit sous la tutelle d'un ami et son comportement est marqué du sceau du traumatisme vécu en détention. Ses ressources, pour le moins maigres, ne l'empêchent pas de dépenser beaucoup trop. Il ne peut rester seul. Pour autant, son ami doit rentrer à Londres. Wilde reçoit un billet de son ancien amant et, malgré les mises en garde de ses proches, souhaite le revoir. Sa femme, elle, est revenue en Angleterre et combat la maladie, en plus d'être éprouvée par cette histoire qui l'assaille depuis des années. Elle verse néanmoins une pension à son mari. Malgré des injonctions, les deux amants se retrouvent à Rouen à la fin de l'été 1897 et partent pour la Campanie, près de Naples, en septembre. Leur train de vie est aisé, malgré des revenus limités. Bientôt, à bout de nerfs, la femme de Wilde met ses menaces à exécution et lui coupe les vivres de manière définitive. Les amants s'enfoncent dans la pauvreté. La chute est dès lors vertigineuse. La déchéance dans laquelle Oscar Wilde glisse alors est sans fin. Solitude et misère sont au cœur des derniers mois de la vie de cet auteur extraordinaire. Converti au catholicisme in extremis, comme nous l'avons vu, sous protection financière de certains de ses amis, dont fait partie notamment André Gide, il ne quitte plus la capitale. Malade, sans le sou et seul, il s'éteint le 30 novembre de l'année 1900 au 13 rue des Beaux-Arts, au cœur de Paris. Entouré de quelques amis fidèles, il prononce ses derniers mots. Ou c'est ce papier peint qui disparaît, ou c'est moi. Eh bien, c'est lui que la mort décide d'emporter, et non ce fichu papier peint de sa chambre. Les causes de sa mort sont difficiles à établir. Oscar n'a que 46 ans. L'hypothèse la plus probable est celle d'une méningite consécutive à une syphilis devenue chronique. Jamais il n'en aura montré les symptômes. Ses médecins pensent, eux, que c'est lié à une ancienne suppuration de l'oreille droite maltraitée par le passé. S'il s'éteint dans la misère, Oscar Wilde devient une figure de légende de la littérature mondiale. Après un enterrement de 6e classe, le plus modeste possible, afin d'éviter la fosse commune, ses restes sont finalement transférés au Père Lachaise durant l'année 1909. Son tombeau est inspiré d'un taureau ailé assyrien dont la sculpture d'origine est aujourd'hui conservée au British Museum de Londres. Une légende populaire veut qu'une partie de la pierre tombale de Wilde devienne de plus en plus rose les années passant. La raison ? Les couches de rouge à lèvres des admiratrices venant embrasser la pierre froide recouvrant le corps du poète. Miséreux dans la mort, immortel dans la grandeur de ses textes, voilà qui était Oscar Wilde ou Sébastien Melmoth, selon votre préférence. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.